Charles-Louis-Philippe, le retour du prisonnier. Il arriva par le bas de la petite ville. Il avait fait à pied les 4 lieues qui séparaient celle-ci de la gare la plus proche. Il n'avait pas osé prendre la diligence parce qu'elle contenait des voyageurs. Un coup d'œil que lui avait adressé le conducteur de la voiture, il avait compris qu'il était reconnu. La grande rue était déserte. Le conducteur avait prévenu les gens, sans doute. Toutes les portes étaient fermées. Les rideaux des fenêtres ne se soulevèrent même pas lorsqu'il passa. Seule, en face de la gendarmerie, une petite fille, assise sur une chaise, jouait à la poupée. Mais lorsqu'il arriva à sa hauteur, malgré le voisinage des gendarmes, la mère de l'enfant prit peur. Une porte s'ouvrit, une voix appela précipitamment. « Marguerite, rentre tout de suite !» Une femme mit le pied hors de la maison et saisit bien vite la petite fille par son tablier. Il eût pu, s'il eût prêté l'oreille, entendre ces mots. « Je ne veux pas que tu restes dans la rue. Il y a un homme qui sort de prison. » Comme il tournait à droite, il se trouva nez à nez avec Regrin, le tonnelier, qui roulait une brouette sur laquelle était installé un baquet. Visiblement, Regrin fit un pas en arrière, et s'il n'eut craint pour sa brouette, il est hors de doute qu'il eût couru se réfugier dans une maison voisine. Il crut qu'il allait pouvoir passer auprès de Regrin en feignant de ne pas le voir, mais ce fut plus fort que lui. Lorsque son regard se croisa avec celui du tonnelier, il se sentit si peu de chose auprès d'un homme de son pays qu'il souleva son chapeau et salua. Après avoir accompli ce geste, il n'osa même pas tourner la tête pour savoir si l'autre lui avait rendu son salut. Il entra pourtant à l'auberge du Cheval Blanc. Sur le chemin, dans les villages qu'il traversait, il n'avait pas osé s'arrêter pour boire, craignant d'être chassé par les aubergistes qui, n'étant pas de son pays, n'avaient aucune raison de le recevoir. L'auberge du Cheval Blanc était la dernière sur la route qu'il devait suivre. Il fallait bien qu'il y entrât s'il voulait entrer quelque part. C'était l'auberge de la mère Grandjean, la patronne. Elle ne sut pas tout d'abord qui arrivait chez elle. Mais lorsqu'elle eut reconnu le visiteur, elle, qui avait pourtant l'habitude de servir à boire à des ivrognes, à des braconniers, à des mendiants, et qui savait qu'on ne saute pas comme cela sur les gens, elle regarda du côté de la porte de derrière pour voir si elle aurait le temps de se sauver. Il commanda une chopine de vin. Avant de la lui apporter, la mère Grandjean, au risque de laisser un tel client tout seul chez elle pendant 5 minutes, alla chercher Bordeaux, le forgeron, qui était l'un des hommes les plus forts du pays. Il vint sous le prétexte de boire un coup, s'installa au fond de la salle, et pendant le temps que l'autre resta, ne le perdit pas de vue. La mère Grandjean fut surprise, du reste, lorsque, dans le fond de la cuisine où elle s'était réfugiée, elle entendit, un quart d'heure plus tard, qu'on l'appelait. Elle donna des coups d'œil à chaque pas qu'elle fit pour s'approcher et ne put s'empêcher de dire « Vous voulez donc payer ?» La ferme qu'habitaient ses parents était située à 3 kilomètres de la petite ville. Il eût pu, comme autrefois, pour raccourcir la distance, ne pas suivre la route et prendre à travers champs. Mais il avait perdu la juste notion des choses et se demandait si les gens qui le verraient passer dans leurs champs toléreraient qu'il y mît le pied et ne seraient pas en droit de le faire ramener en prison. Il suivit la route, quoiqu'elle fût bien longue. Il éprouvait encore la sensation qu'il avait éprouvée tout d'abord, à l'instant de sa sortie. Pendant 5 ans, il avait vécu entre 4 murs. Il avait oublié que la lumière était si blanche. Le jour lui faisait mal aux yeux. Il ne voyait pas bien autour de lui à cause précisément de la trop grande clarté. Et puis, comme il n'avait plus l'habitude de se donner du mouvement, il suait beaucoup. Il n'était pas gai non plus comme il l'avait imaginé. Les derniers temps, il se disait « Le jour où je quitterai cette maison de malheur, je serai content. » Il ne savait pas s'il était content. En prison, on prend l'habitude d'être triste. Ce fut lorsqu'il aperçut en haut de la côte la maison de ses parents qu'il se rappela avec le plus de précision la bêtise qu'il avait faite et qu'il avait menée dans cet endroit qu'il venait de quitter et où on l'avait gardé pendant 5 ans. C'était un dimanche soir, au café du Renton. Il était là avec d'autres garçons de la campagne. Ils avaient tous un peu trop bu. Tous les dimanches, il y avait des disputes parce qu'ils venaient chez Duranton des jeunes gens des villages voisins. On leur cherchait querelle parce qu'ils n'avaient qu'à rester chez eux, dans leurs auberges. On se battait à la fermeture du café. Le dimanche 5 mai 1904, il avait imité les autres. Il avait donné un grand coup de bâton sur la tête d'un jeune homme avec lequel il avait eu des raisons. Il apprit le lendemain, par les gendarmes qui vinrent l'arrêter, que ce garçon était un nommé Simoneau, de Valais, et qu'on l'avait trouvé mort dans la rue. Il était passé en cour d'assises à Moulins. Il avait attrapé 5 années de détention. Son père avait dû verser 500 francs à l'avocat qui l'avait dépendu. Personne ne lui avait écrit pendant ces 5 années de maison centrale. Son père avait toujours dit « Oh, moi, par exemple, je n'envoie pas de lettres dans les prisons. » Lorsqu'il arriva sur le seuil, il ne savait pas si quelqu'un était mort ou non dans sa famille. La porte était ouverte, il entra. Une petite fille était assise toute seule dans la grande salle. Il lui sembla la reconnaître. Ça devait être sa nièce. Quel âge pouvait-elle bien avoir? 7 et 5 font 12, c'est ça, elle avait 12 ans. Il n'osa pas désigner son père par son nom de père. Il demanda « Est-ce que Monsieur Thibaudin est ici ?» L'enfant s'enfuit dans la seconde pièce et ne reparut plus. Au bout d'un instant, une femme arriva. Cette fois-ci, il fut sûr de ne pas se tromper. Cette femme était sa sœur. Elle passa auprès de lui sans lui adresser la parole, sortit dans la cour et appela « Père, père !» Ce fut l'instinct maternel qui la fit revenir. Elle alla dans la pièce où s'était réfugiée la petite fille, s'en empara en la saisissant par la main et s'enfuit en sa compagnie. En passant devant le nouvel arrivant, elle s'écarta, craignant de le frôler. Le père entrait dans la salle au même instant. Voyant à qui il avait affaire, le père parla tout de suite. Il dit du premier coup : « Il pouvait bien te garder. On n'a pas besoin de toi ici. » Il avait beaucoup blanchi en 5 ans. Il était tout gris. La mère arriva ensuite. Elle non plus n'était pas morte. Elle expliqua d'abord les raisons de son absence. « J'étais dans l'étable, en train de donner à manger à mes bêtes. » Puis, s'adressant à son fils, « Tu pourras dire, toi, que tu nous as fait honte. Je n'ose plus descendre en ville. Il y a 2 ans, pour la foire du 10 juin, quand on a mené vendre notre vache, j'ai rencontré le père et la mère de celui que tu as tué. C'est du monde honnête, ils nous ont dit bonjour. Je n'ai pas osé les regarder. » Elle ne voyait plus clair d'un œil. Les larmes lui avaient mangé la vue. La sœur revint à son tour, mais sans l'enfant qu'elle était allée mettre en sûreté. Elle dit « Quand tu verras ton beau-frère, ce n'est pas la peine de lui adresser la parole. Il a dit qu'il ne voulait plus te parler. » Et aussitôt le père ajouta « Puisque tu as voulu revenir ici, il faut que tu te mettes à travailler. Il y a justement du bois à fendre dans la cour. » La sœur, qui était nerveuse, se mit à crier alors. « Ne lui mets pas de cognée dans la main, mon père, ne lui mets pas de cognée dans la main. » Mais le père dit avec fermeté. « Et si jamais l'idée de te vient de tuer encore quelqu'un, tu n'auras pas besoin de passer en jugement. Je te tire un coup de fusil. »